Alors, ah bon, t'enregistres là. Ah, ça va être bien. Ha ha
ha, comme tous les premiers vendredis du mois, on a la visite de Laurette Martineau. Eh bien, le lundi suivant, on diffuse cet entretien qu'elle nous fait la grâce de faire en venant dans nos studios, en revenant de Saint-Antonin, où le bus à l'oreille campe devant le collège, les collégiens qui ont toujours autant de choses à dire, je suppose, en ce moment, Laurette.
Toujours, toujours.
Le 25 novembre, une grande action à laquelle vous êtes investie.
Oui, ben c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous, ben, on va axer cette année sur les effets par rapport aux enfants témoins de ces violences de couple. On dit violences de couple, mais voilà, ça parle mieux aux gens si c'est violences conjugales. Nous, on dit de couple parce que toujours dans un souci de prendre en compte tous les couples, hétéro, homo. Voilà.
Oui. Donc, et puis en général, pour l'enfant, quand le ton monte, il sait pas qui a commencé, qui crie le plus fort, mais bon, en général, c'est quand même le mec qui s'en va en claquant la porte après avoir claqué autre chose, souvent.
Oui, et puis bon, il y a vraiment beaucoup, il n'y a pas que la violence physique, la violence, ça peut vraiment sidérer les enfants, parce que quand quelqu'un crie très fort, ça peut faire très peur. Aussi, et donc ça a des répercussions aussi. Donc, et puis le fait de dévaloriser systématiquement la personne, bon, ça peut être la mère, c'est souvent la mère, hein, voilà. Parce que c'est vrai que les violences conjugales, ça concerne la quasi-totalité, c'est des femmes, c'est à l'encontre des femmes qu'elles s'exercent la violence, même si effectivement il y a 18%, on dit, de violences qui sont faites à l'encontre des hommes. Donc voilà, mais c'est quand même, enfin, en tout cas nous, les associations féministes, on tient beaucoup à l'analyse qu'on fait des violences, c'est-à-dire que c'est un rapport de domination et de contrôle et de pouvoir d'un sexe sur l'autre, et du sexe masculin sur le sexe féminin. Et que du coup la prévention, et c'est la prévention qui nous occupe beaucoup actuellement au planning à Montauban, la prévention primaire auprès des tout-petits pour lutter contre les stéréotypes sexués et donc de travailler dès la petite enfance sur comment se construisent les garçons et les filles.
Alors justement, dans l'actualité, nous ressort un rapport de dépistage des problèmes des enfants petits. Alors il y en a qui disent « Ah, encore un lien qui est fait avec la délinquance qui arrive dans la petite enfance ». Les auteurs du rapport disent « Non, non, c'est pour dépister les souffrances des enfants ». C'est la première des souffrances, ça, de pas être bien, de pas se sentir aimé, de voilà. Sentir que ses parents, ça chie, quoi.
Oui. La violence, c'est vraiment quelque chose qui déstabilise, mais qui est quand même très aussi, alors qui est très accepté de la part des parents, qui aiment bien, châtient bien, on vient de là, et donc il y a quand même par rapport à l'enfant aussi le fait que la notion qu'il vous appartienne, que en fait on peut faire ce qu'on veut. Alors si on remonte très 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 loin. Ben il y a les sacrifices humains, hein. En fait c'était les notions chrétiennes qui disaient que ben pour acheter le péché des gens, ben il fallait sacrifier des enfants et plutôt des filles vierges, hein, d'ailleurs. Donc voilà, on était sur le sacrifice humain. Après il y a eu
Abraham. Ben
voilà, je sais pas au niveau des religions, hein, mais en tout cas bon, moi j'ai été élevée dans un enseignement catholique, donc il y avait le sacrifice de Jésus. Donc pour le rachat, et donc après symboliquement, bon, on est passé à des trucs plus humains, à dire bon, on va symboliser ça par du vin, une coupe de vin, c'est quand même plus sympa de boire un coup de rouge que de sacrifier un animal ou voilà. Et donc donc les enfants, le père avait du temps de César par exemple, avait tout droit de décider de vie et de mort sur ben, un enfant qui, justement, devenait un peu réfractaire à l'autorité, machin. Donc, ça, on disait, voilà, il va pas bien. Voilà, il disparaissait de la circulation. C'était réglé.
Mais quand on y pense, dans l'histoire de la civilisation, il n'y a pas très longtemps, que dans les pays occidentaux, finalement, on s'émancipe tout doucement de cette image du paterfamilial. C'est-à-dire, les trois quarts de l'humanité continuent à avoir les femmes sous domination et le reste de la famille qu'on vend pratiquement quand on les marie.
Ben oui.
Bon, et ici, ça peut régresser, c'est-à-dire c'est, tout le monde n'est pas dans la même phase.
Oui, en tout cas, plus on est imprégné de ces schémas et de ces stéréotypes, plus on va être exposé à ce, parce que c'est pas avoir l'accès à l'autonomie, c'est pas avoir des rapports égalitaires. Donc, des conflits, ça arrive dans les couples. Mais c'est un conflit si c'est, voilà, sur un pied d'égalité. Voilà, c'est pas le pouvoir et le contrôle d'une personne sur l'autre. Donc, c'est une gestion des conflits. Voilà, chacun exprime ce qu'il a exprimé. Et puis, voilà, ça fait partie de la communication. Mais qui ne nie pas l'existence de l'autre. Or, dans les violences, c'est pas des conflits, c'est vraiment une manipulation et tout un processus de prise de pouvoir. C'est, par exemple, il y a l'inversion de culpabilité. La personne qui est dans la prise de pouvoir, c'est jamais sa faute. C'est bien parce que elle a édicté des règles très, voilà, très strictes que ça lui sert après d'alibi un peu de passage à l'acte. Tu sais bien que je t'avais dit que ben, ça doit être à telle place et ou que ben, il ne doit pas y avoir de poussière sur le meuble ou de ne pas m'embêter quand je regarde la télé ou je ne sais pas. Enfin, tout sert pour un passage à l'acte. Et donc, c'est des lois iniques parce que voilà, de quel droit on va décider de. Non, on décide des choses ensemble et de façon égalitaire. C'est vraiment sur des rapports inégalitaires et de pouvoir et de contrôle de l'autre. Et l'autre t'appartient. Comme un enfant, voilà, c'est du même ordre. Moi, je pense que vraiment, on travaille, nous, sur l'aspect humain, de dire, ben, un enfant, c'est une personne. Et voilà, les femmes aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est travailler sur l'aspect humain.
Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Plus que mes bas noirs, je ne te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard. Et même si je voulais savoir où tu es, qui tu vois, qui te sépare de moi, je ferais semblant. Croire tes mensonges et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi rester femme, vu ce qu'on l'a. J'aime autant fuir les gens.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays Midi-Quercy.
Et dans le MAG du Quercy-Rouergue, avec Laurette Martineau du planning familial, on est en train de rappeler, quoi, il y a 70 ans que Françoise Dolto disait « l'enfant est une personne », grande révélation, et il y a des gens pour qui c'est pas acquis encore.
Ben non, parce que voilà, ceux qui peuvent penser, enfin, et les ressentis même, hein, parce que les enfants, ils pensent. Moi, je crois que s'ils viennent au bus, c'est parce que vraiment, je les laisse s'exprimer sur les positions qu'ils ont sur les... Ils ont des avis, ils ont des opinions, ils ont... voilà, et qu'elles sont respectées, elles sont échangées. C'est dans l'échange et dans le respect.
Et c'est intéressant, en plus, le regard qu'ils ont sur le monde, finalement, parce qu'ils sont pas encore... pollués, j'allais dire, forcément, de raisonnement idéologique.
Oui, oui, ils sont, voilà, mais après, ils sont quand même très, très, très imprégnés de la violence ambiante. Hein, et donc, pour eux, c'est un jeu aussi, des fois. Et dans le bus, on, justement, je le nomme quand même. Je dis, OK, vous, pour vous, c'est un jeu. D'abord, pour l'autre qui le subit, est-ce que c'est vraiment un jeu? Quasi-totalité, l'autre répond non. Donc, tu vois que c'est pas tant...
C'est un jeu que pour le dominant.
Voilà, c'est un jeu pour le dominant, voilà. Mais, voilà, mais il repère pas trop.
S'il se prend une claque par quelqu'un qui est au-dessus et qui se vit justicier, il comprend pas pourquoi, parce que pour lui, c'est un jeu.
Eh bien, parce que, du coup, et en plus, si c'est un garçon, ça le renforce dans ses anciens stéréotypes. Un type, ça doit être fort, ça doit pas se laisser insulter, ça doit... Voilà, donc ça renforce, justement, une gestion pas normale. Et moi, je leur disais, là, tout à l'heure, encore dans la cour, parce que ça arrive tout le temps, je dis, mais tu sais que t'as pas le droit de taper les gens, que en fait dans le code pénal c'est interdit et que plus tard si tu fais ça ben tu risques de te retrouver en prison et non
ah bon,
ils ne savent pas.
Je vois tous les jours ça dans les films.
Et oui, ouais, ouais. Puis en plus bon alors il y a ce côté en plus télé, internet, etc. Virtuel et le réel voilà donc si ils sont imprégnés de rapports, de pouvoirs, de domination, où on leur demande pas leur avis, ou ben ça provoque aussi de la révolte. Hein. Alors bon, l'âge de l'adolescence, c'est vrai que c'est un âge où on a du mal avec la contrainte, mais si en plus on ne te laisse pas t'exprimer et on nie qui tu es, que tu peux penser, etc., c'est très douloureux et très révoltant. Et donc du coup, ils ont des actes de violence, ils sont insultants envers les adultes, voilà. Mais ils ont, voilà, il faut quand même un médiateur. Moi, je leur dis, mais pourquoi ça se règle pas autrement? Parce que, voilà, quand j'y suis, apparemment, voilà, les gens arrivent à se parler. Et voilà, alors que ben il y a des fois où ça reste deux personnes qui s'opposent et qui se disent des violences. Enfin, voilà, c'est violent dans le ton, violent dans les mots, et c'est d'un irrespect total, quoi.
Et puis bon, après il y a passage à l'acte dans la violence physique quand les mots suffisent pas, parce qu'on croit qu'on n'a pas le dernier mot, donc on cogne.
Ça, c'est une question qui revient souvent sur la peur de reproduire les violences. Et c'est vrai que quand on a intégré des schémas et de construction, hein, en tant qu'enfant, on peut les reproduire ou, à l'inverse, lutter contre. Mais l'histoire de la vengeance, c'est pareil. Des fois, c'est l'esprit de vengeance et d'avoir été impuissante à résoudre quelque chose, ce qui n'est pas la place de l'enfant, hein, de résoudre les problèmes des adultes. Et normalement, même une femme victime de violence doit protéger ses enfants psychiquement de ça aussi. Elle ne doit pas inverser les places. Et souvent, dans les violences, les places sont inversées. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'adulte qui protège l'enfant, c'est l'enfant qui se met entre les deux et qui est un peu le bouclier là-dedans. Ouais. Et ça, ce n'est pas sa place. Psychiquement,
Zorro, il a été traumatisé aussi en voyant ses parents se disputer. Il y a un côté justicier,
oui,
après.
Oui, mais voilà, donc c'est pas forcément dans la reproduction. Il y en a des enfants qui aussi miment le père, c'est-à-dire d'ailleurs dans la soirée là qu'on va avoir le 25 novembre à Moissac sur les répercussions par rapport aux enfants, il y a un spot, on va passer plusieurs spots pour animer le débat. On va commencer par des spots et puis après on parlera avec la salle. Il y a un petit garçon, il y a la scène de violence du père contre la mère, et après c'est le petit garçon qui, la mère à terre, va lui foutre des coups de pied. Ça existe aussi. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas automatique, mais voilà, ça dépend comment l'enfant aura été sous l'emprise, comment il aura été.
Oui, effectivement, on peut avoir des variantes. Imaginons, là, je suis toujours dans le roman, hein, mais ça permet d'exprimer des choses. Le père s'en va ou meurt. Oui. Le grand garçon, soit il surprotège sa mère qui devient une femme seule élevant des enfants, ou bien il la domine en remplaçant le rôle du père qu'il a identifié, en s'identifiant à lui, l'homme, celui qui commande dans cette maison, et puis c'est tout. Alors j'ai l'impression qu'il y a des émissions de télé qui se servent beaucoup du grand frère pour venir résoudre des problèmes de conflits justement interpersonnels. Et c'est souvent ce qui s'est passé, c'est que le garçon, il s'est cru tout permis parce que c'est le seul modèle qu'il avait, un homme se croit tout permis.
Et oui, oui. Et puis c'est là où on l'a placé, c'est pour ça que quand c'est renforcé par ailleurs, il n'y a pas de contrepoids et d'autres mesures. Et la société, quand même, et à l'école, enfin, je veux dire, sur le sujet des violences conjugales, enfin, moi, j'ai commencé à y bosser en 1985 et au niveau national, au planning, on avait une commission spécifique. Il y avait des copines qui revenaient du Canada. Mais depuis 85, on sait qu'il faut lutter contre les stéréotypes sexués et que ça se fait dès la maternelle. Enfin, que, et il y a des programmes et que c'est toujours pas fait ou alors c'est diffusé dans des, voilà, c'est diffusé un peu dans les matières, mais les enseignants s'en rendent même pas compte. Souvent, nous, quand on le travaille en formation professionnelle, il y a plein de stéréotypes qu'on reproduit et qu'on voit pas. Et on favorise comme ça des tas d'habitudes qui enracinent en fait dans ces modèles-là. Je pense, voilà, dans les cours d'école, l'espace est vraiment pris par les garçons, les filles sont plutôt à côté, beaucoup d'activités où pour les filles, elles sont plus attentives à l'école parce qu'elles sont censées être plus sages, plus, et donc souvent les maîtres et les maîtresses questionnent plus les garçons que les filles.
Et le 25 novembre, c'est tout un panel d'invités, des rencontres qui vont faire avancer le chemin public.
Ouais, nous on est éducation populaire, hein, donc on va travailler autour de ces petits films qui ne manqueront pas de parler aux personnes, et donc du coup on part du public, hein, c'est le public qui échange, et nous on n'est pas là pour dire la leçon, on est là pour que ça discute et pour faire s'exprimer les gens, et même sur, voilà, pour laisser exprimer les gens, même si c'est des fois, pour nous, des choses très à l'opposé de ce qu'on peut penser, mais c'est important de confronter les idées et de laisser développer la contradiction.
Mais bon, ce sont les journées internationales des violences faites aux femmes, c'est une couverture médiatique mondiale qu'il y aura, et avec des événements un petit peu partout. Vous inscrivez donc à Montauban au Ramirou, à quelle heure?
Alors, on a plusieurs choses. Au Ramirou, on est avec les Francas comme tous les ans sur la journée internationale du droit des enfants, parce que ça tombe à peu près pareil, c'est en novembre aussi, c'est tous les ans comme ça. Et donc, nous, du coup, on fait au Ramiro, on a toujours travaillé sur la prévention des comportements sexistes. Et donc, le travail de prévention contre les schémas stéréotypés. Donc, autour de comptes, hein, on a des petites histoires et on discute avec les jeunes. Donc, c'est souvent primaire. Hein. Nous, on a demandé beaucoup les primaires, comme on voit les grands par ailleurs. Et on a deux ateliers cette année. Un atelier sur autour d'un conte sur l'égalité filles-garçons et contre les schémas et les stéréotypes sexuels. Et puis un autre c'est un conte qui s'appelle La Joue Bleue et qui est pour parler justement des répercussions pour les enfants, donc d'avoir la parole des enfants sur quand ils sont témoins de violences des adultes. Et dans leur famille. Voilà. Parce qu'il y a cette spécificité-là aussi, que les violences conjugales, pour l'ensemble des personnes, c'est ça regarde personne. Enfin voilà, c'est interne. Les violences, c'est chez soi. Donc ça regarde pas les autres. Et en fait, ça c'est vraiment une fausse idée. Parce que les violences, c'est interdit par la loi, et que si on en est témoin et qu'on ne porte pas secours, ben on peut rendre des comptes et peut-être être interpellé pour ne pas avoir porté secours à quelqu'un. Donc c'est quand on est témoin, on doit porter secours. Sans quoi on peut aussi être amené à être inculpé pour non-assistance à personne en danger.
Alors, on est témoin, c'est exceptionnel, mais on rencontre quelqu'un qui a des hématomes.
Oui, en général, quelqu'un qui a des hématomes...
Elle est tombée dans les escaliers, c'est comme une porte.
Absolument. C'est difficile, il faut des conditions pour que la personne puisse le dire. Voilà. Et donc, dans les formations aussi, le médecin, c'est le mieux placé, par exemple, pour
le médecin,
parce que quand il y a des bleus, quand il y a des maux de ventre, enfin, voilà, il y a plein de somatisations qui font que on va voir le médecin. Et c'est vrai que la formation des médecins par rapport à l'accueil des femmes victimes de violences, c'est vachement important, parce que il y a toute une grille de questions qu'on peut poser directement. Et si on pose des questions, on a les réponses. Et en fait, on a souvent des réponses positives concernant les violences. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que on somatise beaucoup quand on est victime de violences. On ne dort pas, on est stressé, on n'arrive pas à se concentrer. Donc, on pense qu'on est nul, qu'on n'arrive pas. Du point de vue de l'estime de soi, que ce soit l'enfant ou la femme, ça peut aussi être très négatif et très destructeur pour les personnes.
Et donc, même quand ça laisse pas de traces, ça laisse des traces.
Oh oui, c'est sûr. Et la peur, vivre dans la peur et le stress, c'est une émotion qui n'est pas du tout épanouissante. Ça, c'est un repli sur soi. Après, la souffrance, elle peut s'exprimer aussi par ne plus supporter rien et du coup poser des actes de violence aussi. Et donc, du coup, ça n'arrange pas les relations avec les autres, forcément. Et donc, on est dans un engrenage, et si on ne trouve pas quelqu'un pour en parler et essayer de trouver d'autres façons de fonctionner et des façons de gérer ses émotions différemment, Et surtout de ne pas être jugé, d'être encouragé dans l'estime de soi.
A priori, médecins.
Les médecins sont vraiment, vraiment devraient avoir une formation obligatoire là-dessus, vraiment.
Ah oula, devrait avoir. Oui,
si
le premier médecin ne marche pas, il faut aussi un deuxième.
Oui, mais n'empêche que non, les médecins de famille, c'est médecins de famille. Et ils sont justement souvent confidents. Ils savent les choses, les médecins. Mais les médecins, il faut aussi qu'ils puissent faire des signalements ou faire des choses, parce que ça concerne pas la sphère privée. Alors, c'est vrai qu'on est tenu au secret professionnel, mais dans certains cas, non. En tout cas, par rapport aux enfants, non. Donc c'est vrai que cette histoire de sphère privée, sphère publique, du moment qu'il y a des violences, ça concerne la sphère publique parce que c'est interdit par la loi. Et la loi, ça protège. Et moi, ça, alors j'y tiens beaucoup. Les règles de vie, les limites, les trucs, c'est la protection. Et quand on n'en a pas, on va en chercher. Après, c'est la négociation de ces limites et de ce cadre. Mais à la base, c'est pour protéger.
25 novembre, deux jours sur les journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes et vous avec les enfants au Ramiérou.
Donc deux jours au Ramiérou. Le soir, on aura donc ce débat à Moissac au centre culturel, donc tout public. Et puis on a aussi le même jour, le 25 novembre, des comptes dans une école maternelle de Moissac qui accueille deux de nos militantes planning pour autour du compte La Joue Bleue. Voilà, parce qu'on a plein de comptes La Joue Bleue. D'ailleurs, je vais demander à la bibliothèque à côté de savoir s'ils l'ont La Joue Bleue.
Ouais, comme vous revenez le lundi 6 décembre, vous allez nous parler, nous rendre compte de ce qui s'est passé le 25 novembre. Merci, Laurette.
Eh bien, avec plaisir. Au revoir.
Le mag du quartier Rouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.
soleil.